Bonjour à vous, en ce beau temps, si l'on peut dire, liturgiquement en tout cas, entre l'ascension du Seigneur et la Pentecôte. Alors nous abordons notre 12e leçon de ce cours sur Saint Paul, nous sommes le lundi 17 mai. Vous vous souvenez que la fois passée, nous avions commencé à parcourir la lettre aux Galates. Cette leçon-ci, nous allons terminer notre lecture de la lettre aux Galates, même un peu rapide, mais ça nous donne quand même une idée d'ensemble de cette lettre. Et puis, nous commencerons à poser les cadres pour aborder la lettre aux Romains. Vous vous souvenez qu'au début de la lettre, il y a comme d'habitude l'adresse, on y avait pointé quelques éléments, enfin beaucoup d'éléments qui sont singuliers par rapport à une adresse normale, notamment le fait que Paul revendique sa qualité d'apôtre comme lui venant, non pas des hommes, mais par un homme, mais par Jésus-Christ. Et il rappelait l'adresse que Jésus-Christ s'est donnée pour nos péchés, pour nous arracher à ce mauvais monde présent, et il terminait par une formule doxologique, donc quelques éléments qui singularisent cette adresse de la lettre aux Galates. Ensuite, autre élément particulier, c'est que Paul n'enchaîne pas sur une action de grâce, mais sur un étonnement. Je m'étonne que vous désertiez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer un évangile différent. Donc, Paul va insister sur la vigilance à avoir pour ne pas se laisser détourner de l'évangile, de la vérité de l'évangile, qu'il a prêché dès le début et qu'ils ont accueilli dès le début. Et ni lui ni eux ne doivent se laisser détourner de cette vérité par des gens qui présenteraient l'évangile en ne respectant pas sa spécificité comme étant l'évangile centré sur Jésus qui nous sauve. Et puis Paul, à l'appui, était entré dans une narration pour faire valoir comment, à partir de sa conversion, eh bien, son statut même d'apôtre et le contenu de son évangile est le fruit, non pas directement d'une tradition humaine, mais de la révélation de Jésus. Ce qui n'empêche qu'ensuite, dans son parcours, il est monté, c'était la suite du chapitre 1, la finale du chapitre 1, il est monté faire la connaissance de Képhas, et il avait vu Jacques aussi, le frère du Seigneur, mais c'était là une première rencontre. Et il va évoquer au chapitre 2, au bout de 14 ans, une autre rencontre qu'on identifie volontiers comme celle de cette rencontre à Jérusalem, rapportée en acte 15, le concile de Jérusalem, même si on peut discuter ce point, mais la plupart des auteurs identifient ce qu'il dit là avec cette montée à Jérusalem relatée en acte 15. Et pour y défendre, dit-il, il nous faut la liberté de l'évangile face à ceux qui voudraient les réduire en esclavage, leur imposant de nouveau le joug de la circoncision. Et Paul rappelle comment la décision du concile de Jérusalem a été dans le bon sens, puisqu'elle a reconnu cette liberté d'action qui lui était donnée comme apôtre des incirconcis, comme il dit, pour ne pas leur imposer plus de contraintes, de joug que nécessaire pour entrer dans la foi au Christ. Mais voilà que, poursuit-il dans le chapitre 2, Képhas lui-même, lors d'une venue à Antioche, eh bien, avait dû être repris, si je puis dire, par Paul, fraternellement, mais vigoureusement, parce que lui-même semblait faire marche arrière. Il semblait entrer dans cette forme de régression qui risque de menacer les Galates en ne partageant plus, comme il l'a fait jusque-là, la table des païens, en s'ouvrant à eux, mais par crainte ou par des pressions d'autres personnes, voilà qu'il avait fait marche arrière et Pierre le lui reproche parce qu'il mesure, Paul le lui reproche, pardon, parce qu'il mesure la gravité de l'enjeu. Et puis au verset 16 de ce chapitre 2, nous avions comme un énoncé de ce qui me paraît la proposition la plus représentative de l'axe central de la lettre. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, s'il ne l'est par le moyen de la foi en Christ Jésus, nous avons cru, nous aussi, en Christ Jésus pour être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, aucun homme ne sera justifié. Et là, Paul introduit une citation d'un psaume qui va préluder à un enchaînement, comme on l'a vu dans un passage ultérieur, très subtil de citations scripturaires pour éclairer la thèse qui est la sienne. Mais donc, avec le vocabulaire de la justification, c'est comme un nouveau thème qui est introduit, et on va voir tout au long de la lettre les thèmes ainsi progressivement s'enrichir. Cette justification est une justification qui fait vivre, voilà un nouveau thème, là vers le verset 18, 19, 20 du chapitre 2, et Paul a cette belle expression, ce que je vis dans la chair, c'est dans la foi que je le vis, c'est le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Notre vie qui vient de la foi mise en Christ. Dès lors au chapitre 3, Paul enchaîne en réinterpellant vivement les Galates, pauvres fous de Galates, pour les amener à réfléchir, mais qu'est-ce qui leur a valu le don de l'esprit? Ce n'est pas tant l'observance de la loi, mais précisément leur foi en Christ qui leur a donné part à cette réalité de l'esprit du Christ. Voilà un nouveau thème qui surgit. Et pour insister sur l'importance de la foi, Paul va déployer, alors chapitre 3, la figure d'Abraham. C'est tout le passage que nous avions lu, et pour terminer la leçon, et que je reprends un peu avec vous. Nous l'avions lu une première fois, et il va faire valoir comment précisément la foi d'Abraham lui vaut la promesse des bénédictions, à l'encontre de ce qui pourrait être malédiction, plutôt du côté de l'incapacité à observer la loi, et une promesse de bénédiction. Et finalement, il termine au verset 14 en disant que par le moyen de la foi, nous recevions l'esprit promis, le don qui est le don dans lequel nous sommes bénis et qui est promis, c'est essentiellement l'esprit. Et ça convient bien en ce temps où nous préparons à la Pentecôte. Mais je reprends un peu plus en détail ce passage avec vous avant de continuer de manière plus rapide la lecture de la lettre. Je vous invite à voir sous les yeux la page 53 de votre dossier que je vous avais donné et qui offre un schéma qui manifeste davantage cet enchaînement des citations. Car la lecture, on sent très riche, mais qu'il s'agit d'éclairer un petit peu. Donc je suis à la page 53 de votre dossier. Alors l'arrière-fond, donc, c'est de voir ce qui est raconté d'Abraham au livre de la Genèse. Vous vous souvenez qu'au livre de la Genèse, c'est au chapitre 12 qu'intervient la vocation d'Abraham. Dès le chapitre 15, il y a les promesses et une alliance, déjà au chapitre 12, vers la terre que je t'indiquerai, une terre de promesses qui se profile à l'horizon. Et voilà que les promesses et l'alliance sont énoncées, contractées une première fois au chapitre 15. Mais la réalisation de la promesse d'avoir un fils, une descendance, ne va pas advenir tout de suite. Il y aura d'abord la naissance d'Ismaël, fils de la servante, Agar l'Égyptienne, puisque Abraham n'a pas encore de fils de son épouse à proprement parler, Sarah. Ça viendra plus tard. Mais dans l'attente, il y a un premier fils, Ismaël. Je rappelle cela parce que ça va intervenir plus loin, ces figures, dans la lettre aux Galates. Elles vont être rappelées et convoquées. C'est au chapitre 17 qu'on a une reprise plus solennelle de l'Alliance, et pour comme signe de l'Alliance, non pas comme cause de l'Alliance, mais comme signe de l'Alliance, la circoncision. Abraham étant circoncis et recevant un changement de nom à l'occasion, non plus Abraham, mais Abraham. Et Paul méditera dans la lettre aux Romains comment, dans la vie même d'Abraham, la circoncision n'intervient pas au début. Déjà, les promesses ont été faites au chapitre 15, alors même qu'il n'était pas circoncis. Bien plus tard, il y a comme un décalage chronologique. De même qu'à l'échelle de l'histoire du salut d'Israël, la figure d'Abraham, le croyant, vient avant la figure mosaïque de la loi au Sinaï. Mais déjà, à l'intérieur même de la vie d'Abraham joue un argument chronologique. La circoncision ne vient pas d'emblée au seuil, c'est après. Puis il y a l'apparition au chêne de Mambré, c'est une belle rencontre que nous connaissons, notamment par l'icône de la Trinité de Roublev, qu'on peut voir se dessiner en arrière-fond. Et là, la promesse est formelle, dans un an, Sarah aura un fils. Le fils de la promesse, le fils de la femme libre. De fait, au chapitre 21, la naissance d'Isaac, fils de Sarah, et à l'occasion, Agar et Ismaël sont renvoyés à ce moment-là. Et Paul montrera comment, la suite du récit montrera comment ils ne sont pas pour autant négligés par Dieu. Mais le fils de la promesse, c'est le fils de Sarah, Isaac. Voilà pour un bref rappel de ce qu'il en est de la figure d'Abraham dans le livre de la Genèse. Puis je reprends le jeu des citations. Vous vous souvenez, en 2, verset 16, « En raison d'œuvre de la loi, ne sera justifiée aucune chair. » J'ai mis en italique chaque fois ce qui vient d'un passage scripturaire dans cet instant. Ça, ça vient du psaume 142, qui dit « Réponds-moi en ta justice. » Déjà, choisis un psaume qui parle de justice. « Réponds-moi en ta justice. N'entre pas en jugement avec ton esclave, parce qu'aucun vivant ne sera justifié devant toi. » Si on considère ses mérites, nul n'a assez de mérite pour se trouver parfaitement juste devant Dieu. Et Galate commande déjà, en raison de la loi, personne n'arrive à être justifié. Puis le verset de 3, 16, qui est tiré précisément de Genèse 15, là où sont énoncées une première fois les promesses. Abraham eut foi en Dieu et ce lui fut compté pour justice. Il nous semble, je vous rappelle, avant la circoncision, qui a lieu au chapitre 17 de Genèse. Puis, un verset plus loin, « En toi seront bénies toutes les nations. » Là, c'est le terme de la promesse qui était énoncé déjà au chapitre 12, même. On remonte dans le texte de Genèse. « Je bénirai ceux qui te bénissent, ceux qui te maudissent, je les maudirai. » Déjà, on introduit le binôme lexical bénédiction-malédiction, on va voir à quel sens ce second terme joue, et seront pleinement bénis en toi toutes les nations de la terre. Et cela est relayé encore plus loin dans le récit de la Genèse, je vous ai mis les références. Puis, il va chercher une citation tirée cette fois-ci d'un prophète. Donc on est parti de texte de la Genèse, puis on va chercher un texte prophétique, Habakkuk. Le juste, en raison de la foi, il vivra. On peut comprendre, soit le juste en raison de la foi vivra, ou bien le juste en raison de la foi vivra. Et quoi qu'il en soit, on voit bien que les trois termes sont liés. Être trouvé juste aux yeux de Dieu, la foi, et la foi qui donne accès à la vie, il vivra. Puis, un verset plus loin, il va chercher une autre citation, tirée cette fois-ci du Lévitique. Là, nous sommes dans un livre ultérieur du Pentateuque, du Lévitique, et il va la chercher parce qu'elle comporte deux termes qui l'intéressent, la reprise du verbe vivre, celui qui fit les commandements vivra, et puis le verbe faire. Il s'agit de faire les commandements, et celui qui arriverait à faire tous les commandements, eh bien, il vivra en eux. Donc, il l'oppose, bien sûr, à ce qui est la citation précédente, le juste, il vivra en raison de la foi, et puis voilà que le Lévitique a l'air de dire que la vie, elle vient en raison de faire les commandements. Mais, il avance dans ce raisonnement, arriver à faire tous les commandements, ça, on n'y arrive pas. Et donc, on est plutôt bloqué devant cette nécessité, ce commandement de faire tous les faire toutes les observances du Seigneur. Et donc, on est plutôt sous le coup d'une malédiction, parce qu'il y a un autre passage, tiré cette fois-ci du Deutéronome, « Maudit soit tout qui ne demeure pas dans toutes les choses écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Et ça, personne n'y arrive. Et puis, il va chercher un autre passage du Deutéronome. Vous voyez comment les citations s'enfilent à la faveur d'un mot qu'elles ont en commun chaque fois. C'est le procédé bien connu, biblique, de la Gezera Shava. Ça porte un nom technique bien connu des rabbins. On appelle deux citations à la faveur d'un mot qu'elles ont en commun. Alors, le passage du Deutéronome va chercher un autre passage qui utilise le verbe maudire. Maudit tout qui est pendu sur le bois. Et dans le contexte du Deutéronome, c'était dit d'un coupable qui a été pendu, eh bien, qui ne pourra pas, son cadavre, être laissé la nuit sur le bois de l'arbre. Tu l'enterreras le jour même, car maudit est par Dieu tout qui est pendu sur le bois. Passage quand même très, très austère, très, très grave, très sévère. Mais c'est là, évidemment, où Paul introduit en filigrane la figure du Christ, puisqu'on peut comprendre le pendu sur le bois, c'est plus simplement le gibet de l'Ancien Testament, mais celui qui était pendu au bois de la croix. Et il interprète en disant, mais voilà, en allant jusqu'à être pendu sur le bois de la croix, c'est comme s'il habitait, comme s'il assumait la malédiction qui pèse sur nous. Mais comme de la croix, il ne va pas rester indéfiniment pendu au bois de la croix. Il va être mis au tombeau et ressuscité. Et donc la malédiction qu'il a prise sur lui, d'une certaine manière, elle va se transmuer, se transformer par la force de vie de la résurrection en bénédiction. Il termine en disant, or, c'est à Abraham qu'ont été faites les promesses et à sa descendance. On ne dit pas aux descendances, au pluriel, comme pour plusieurs, mais comme pour un seul, et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. C'est là que Paul, ouvertement, évidemment, fait comprendre qu'il a relu tous ces passages de l'Écriture à partir de l'expérience qu'il a du mystère pascal du Christ, bien sûr, et qui lui a permis d'interpréter avec une manière qui nous paraît audacieuse, mais qui est bien dans la tradition rabbinique, et avec quand même une grande force, l'arrière-fond d'Écriture qui s'éclaire dans le Christ. J'ai fait un petit schéma pour résumer. On voit que si on prend les divers passages, ils ne sont jamais très longs, vous voyez, c'est des petits bouts de versets, mais Paul a été cueillir toute une série de passages qui lui donnent le vocabulaire de tout son rayonnement, raisonnement spirituel et théologique ici. Il y a quand même cette humilité que de ne puiser son vocabulaire essentiel que dans l'Écriture. Paul n'introduit pas beaucoup d'autres vocables qui viennent de lui à ce moment-là. Et ce vocabulaire, il l'a trouvé dans l'Écriture, ce sont les termes la foi, la loi, la justice, justification, bénédiction, malédiction, faire, au sens de pratiquer les commandements, vivre, même la petite particule en raison de, syntaxique, mais elle joue parfois d'une citation à l'autre, le terme de la descendance et la perspective des nations. Alors je vais résumer dans un cadre, il dit que finalement, à partir de quoi reçoit-on de vivre, d'être justifié? Je pourrais ajouter de recevoir l'Esprit promis, qui vient tout à la fin. Eh bien, non pas d'arriver à faire toute la loi, non pas en raison d'œuvres de la loi, à la limite, c'est un enfermement qui est plutôt malédiction, mais au contraire, en raison de la foi, qui est source de l'accueil d'une bénédiction qui a fait l'objet d'une promesse. Et puis, en dernière ligne, j'ai mis, je ne sais pas si j'ai corrigé sur vos feuilles, Galates 3, 14, bon, sur ma feuille j'avais mis 1, 14, c'est une erreur, hein, c'est le chapitre 3. Hein, vous corrigez ça, Galates 3, 14, c'est le verset précisément qui nous dit « Pour que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations » en Christ Jésus, et que par le moyen de la foi nous recevions l'Esprit promis. Vous voyez le mouvement, c'est dit brièvement, mais de la promesse à Abraham, le fruit de bénédiction pour sa descendance, qui est ultimement, par excellence, le Christ, et qui, lui-même, nous, convoit cette bénédiction, c'est dans le Christ que les promesses aboutissent à toutes les nations finales. Voilà pour le mouvement de ce beau passage. Vous voyez, bien sûr, c'est un raisonnement très, très dense lorsqu'on le lit première fois, mais lorsque on le démonte un petit peu, on voit la force avec laquelle Paul arrive ainsi à argumenter à partir de l'Écriture et à déployer un peu la thèse centrale théologique et spirituelle de la lettre. Alors, Paul semble avoir complètement discrédité la loi, en disant qu'à la limite, puisqu'on n'arrive pas à faire tout, les sources de malédiction, est-ce qu'elle n'a plus aucune valeur, quand même. Paul fonctionne toujours comme ça. Il pose la thèse principale avec force et vigueur, pour bien faire comprendre l'essentiel de ce qu'il veut dire. Et puis après, il est assez malin pour se rendre compte que ça suppose aussi des nuances, qu'il va y avoir des objections. Et il a l'initiative lui-même, c'est son procédé rhétorique, de faire valoir les objections pour y répondre. C'est comme s'il nous disait, je me rends compte que c'est fort comme thèse, mais essayez de comprendre en quoi je la nuance. Qu'est-ce que donc que la loi? C'est sa question au verset 19 du chapitre 3. J'avance dans le texte. Qu'est-ce que donc la loi? C'est en vue des transgressions qu'elle a été ajoutée. Comprenons, la loi va mettre nos manquements au jour en tant que transgressant le commandement qui est donné. Elle va révéler la vigueur de transgression de nos manquements. Tant qu'il n'y a pas de loi formulée, ben on sent bien dans sa conscience aussi tout ce qui ne va pas. Mais à partir du moment où la loi est donnée, on voit bien là où on la transgresse. Qu'est-ce donc la loi? C'est en vue des transgressions qu'elle a été ajoutée jusqu'à ce que vint, et cette formule de temporisation jusqu'à ce que, qui marque la patience de Dieu, va revenir plusieurs fois dans la page. Avant que vint la foi, verset 33, la loi, pédagogue, jusqu'à ce Christ. Verset 25, mais une fois la foi venue, ou bien au début du chapitre 4, je le dis aussi longtemps que l'héritier est enfant, mais, arrive un moment, verset 4 du chapitre 4, lorsque vint la plénitude des temps. Donc, il y a un rôle de la loi temporaire. Il y a un aspect de la loi qui va rester, bien sûr, le cœur de la loi. Paul en parlera plus loin. Le commandement de l'amour, cela demeure in aeternum, si je puis dire. Mais le rôle de pédagogue, d'encadrement de la loi, lui, est transitoire. Je continue la lecture du texte. Jusqu'à ce que vint la descendance à laquelle était destinée la promesse. Donc je prends en haut de votre page, au verset 19 du chapitre 3. La loi, elle a été édictée par le ministère des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur ne l'est pas d'un seul, mais Dieu est seul. Un médiateur, c'est un médiateur entre deux parties. Dieu est unique et sous-entendu ici, c'est un verset un peu difficile à interpréter, mais comme fils de Dieu, Jésus lui-même est Dieu lui-même parmi nous. Et donc ça va être un type de médiation particulièrement serré. Puisque le médiateur est le parfait représentant de celui qui, de la partie qui donne la loi. C'est aussi pour ne pas nous arrêter trop longtemps à certains versets qui demanderaient beaucoup de commentaires. Le médiateur n'est pas d'un seul et Dieu est seul. La loi irait-elle donc contre les promesses? Jamais de la vie. En effet, s'il avait été donné une loi capable de faire vivre, plus l'important de cette, c'est alors que la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a enfermé toute chose sous le péché pour que, par la foi en Christ Jésus, la promesse fût donnée aux croyants. L'Écriture a enfermé toute chose sous le péché, c'est-à-dire la formulation de la loi, montre que nous sommes tous pécheurs. Alors est-ce qu'on va rester enfermé dans ce statut? Non, pour que par la foi en Jésus-Christ, une promesse qui va être libératrice par rapport à cet enfermement du péché, fût donnée au roi. Oui, je lis en commentant un peu au fur et à mesure. Avant que vint la foi, nous étions enfermés, cette idée d'esclavage, d'enfermement, de prison, nous étions enfermés sous la garde de la loi, mais en vue de la foi qui devait être révélée. De sorte que la loi est devenue notre pédagogue. Dans la deuxième manière de parler de la loi plus positive, pédagogue. Elle nous achemine, mais vers une finalité qu'elle ne peut donner à elle seule. Elle devient notre pédagogue jusqu'à Christ, pour que nous fussions, oui, justifiés par la foi. Mais, la foi venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue. Il y a un changement de régime. Car tous, vous êtes fils de Dieu par le moyen de la foi en Christ Jésus. Vous tous, en effet, vous avez été baptisés en Christ, c'est Christ que vous avez revêtu. Il n'y a pas de juif ni de grec, il n'y a pas d'esclave ni d'homme libre, il n'y a pas d'homme ni de femme, car tous vous êtes un en Christ Jésus. Mais si vous êtes du Christ, alors vous êtes descendants d'Abraham, héritiers de la promesse. Paul a introduit un nouveau thème, le thème de la filiation. Il va faire comprendre que le fils, il est sous un pédagogue pendant un certain temps. À partir de sa majorité, il reçoit pleinement son statut de fils libre, il n'a plus besoin d'un pédagogue. Et la loi a été un peu ce pédagogue, pour tous. Et puis, Paul insiste déjà fortement sur, en revêtant le Christ, et vous voyez qu'il insiste sur tous, vous tous, etc., vous avez été baptisés en Christ. Et donc, dans la communauté en Galatie, il y a des chrétiens venus du judaïsme, il y a des chrétiens venus du monde non-juif, mais tous sont réunifiés en étant baptisés dans le Christ. Et dès lors, il n'y a plus, de ce point de vue-là, de l'accès au salut, il n'y a plus de juifs ni de grecs, d'esclaves ou d'hommes libres, d'hommes et de femmes, tous, en étant baptisés, sont reconnus dans leur statut vraiment d'enfants de Dieu. Alors bien sûr, Paul sait que dans la société, il y a des esclaves, il y a des maîtres, qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, mais ici, il veut signifier, il veut insister sur l'unité qui s'opère là où il y a toujours des risques de clivage, au contraire, dans le Christ. Tous baptisés dans le Christ. Donc il n'y a plus de raison de séparer indûment ou d'opposer. Il faut concilier dans le Christ, voir l'unité qui s'opère dans le Christ, entre le juif, le grec, l'esclave, le libre, l'homme et la femme. Si vous êtes du Christ, alors vous êtes descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Il introduit un nouveau terme, celui lié au thème de la filiation, celui de l'héritage. Le fils dans la maison, c'est lui qui reçoit l'héritage, à la différence de l'esclave. Il avance. Or, je le dis, nous sommes au chapitre 4. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est, virtuellement, si vous voulez, le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, des curateurs, jusqu'à la date fixée par le père. Ainsi de nous, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux éléments du monde. Mais lorsque vint la plénitude des temps, du temps, Dieu envoya son fils né d'une femme. Cela allusion à Notre-Dame, très discrète dans la lettre aux Galates. Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi ? Pour racheter précisément ceux qui étaient sous la loi. Il n'a pas voulu échapper à la loi commune, si je peux dire. Il a voulu naître sous la loi, mais précisément pour avoir une manière de l'assumer, on voit dans tout l'Évangile, qui va nous libérer d'une conception étroitesse de la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Donc lui est le fils par excellence, l'héritier, mais nous entrons par adoption dans cette filiation, dans cet héritage. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». De sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier de par Dieu. En disant « tu n'es plus esclave », et il se prépare à introduire un nouveau thème qui va être le contraire de l'esclavage, qui est le thème de la liberté. Tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es héritier par Dieu. Vous voyez comment il avance en gardant présent à l'esprit la figure centrale du Christ, son fils de Dieu, pour que nous entrions dans cette filiation. Et il n'y a pas 36 manières d'y entrer, c'est de recevoir l'esprit du fils lui-même. Verset 6, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, et c'est cet esprit de son fils qui est capable de nous faire dire en vérité « Abba, Père ». On continue, on tourne la page. Donc il y a un changement qui s'opère, un passage, il y a des étapes qui sont franchies. Jadis, il est vrai, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous avez été asservi, esclave, à des dieux qui de nature ne le sont pas. Mais maintenant, comme souvent chez Paul, il y a un autrefois et un maintenant. Tout comme dans sa propre vie, il y a eu l'autrefois, le jadis de sa vie de persécuteur, et puis autour de la charnière du chemin de Damas, il y a eu l'entrée dans un maintenant sauvé. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de lui, comment retournez-vous encore dénonciation de la régression possible. Comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore de nouveau vous asservir? Les croyances aux idoles, etc. Ou, en l'occurrence, peut-être un attachement excessif à la circoncision. Vous épiez jour, mois, saison, année. C'est-à-dire l'attachement à toute une série de prescriptions attentives au calendrier, il faut faire ceci à certains moments, etc. Mais c'est cela qui va vous sauver. Je crains d'avoir peiné en vain pour vous. Devenez comme moi, puisque je suis devenu comme vous. Frère, je vous en prie. Vous m'avez fait aucun tort. Vous le savez, ma chair était bien malade quand je vous ai évangélisé la première fois. Et pour ma chair, qui vous était une épreuve, vous n'avez eu ni mépris ni dégoût, mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Christ Jésus. Donc Paul revient toujours au point de départ. La sincérité et la ferveur avec laquelle l'Évangile a d'abord été, et sa personne a d'abord été accueillie. Mais, verset 15, où sont-elles donc ces protestations de bonheur? Car je vous en rends témoignage, s'il eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. De sorte que je serais devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Si maintenant, j'insiste pour vous mettre en garde, ne déviez pas de la vérité, est-ce que je le fais en devenant tout d'un coup votre ennemi? Mais non, vous comprenez que c'est pour votre bien. Verset 17, l'affection que l'on vous témoigne n'est pas pour le bien. Ce qu'on veut, c'est vous détacher de nous pour gagner votre affection. Il est bien d'être l'objet d'une affection quand c'est en bien et pour toujours, et non pas seulement quand je suis près de vous. Mes enfants, vous voyez que là, il se fait pressant, et il a été très sévère au début, mais que c'est par amour qu'il est sévère. Mes enfants, pour qui j'endure à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Accueillir le Christ, ce n'est pas l'affaire d'un moment. Il s'agit jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. C'est une belle image. C'est un enfantement. Je voudrais être en ce moment près de vous et changer de ton, car je ne sais comment m'y prendre avec vous. Ben, on sent que Paul laisse parler son cœur. Puis, il a développé la figure d'Abraham. Dans l'histoire d'Abraham, il va aller rechercher les deux figures de la femme l'épouse légitime, Sarah, la femme libre, et de la servante Agar. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Il est écrit en effet qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Donc ici, au verset 21, il prend la loi au sens de la Torah, qui peut désigner l'ensemble des livres du Pentateuque. N'entendez-vous pas ce que dit ce récit du début de la Bible? Il est écrit en effet qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais celui de la servante était né selon la chair. Puisqu'à ce moment-là, Abraham désespérait d'avoir un fils. Et c'est Sarah elle-même qui lui a dit, va vers la servante pour avoir un fils. Mais c'était encore une attitude encore très, très humaine, très, très charnelle en ce sens-là. Celui de la servante était né selon la chair, mais celui de la femme libre en raison de la promesse. Bien sûr, pour avoir Isaac, Abraham s'est uni à Sarah, mais en deçà, il y avait l'espérance de la promesse, et c'est cette foi qui a donné à leur union d'être fécond d'Isaac. Celui de la femme libre en raison de la promesse. Cela est une allégorie. Ces femmes, en effet, sont deux alliances. Là, Paul propose une interprétation assez audacieuse, mais voilà, c'est sa manière pétri de rabbinisme, de présenter les choses. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage. C'est Agar, la servante. Car Agar est sur le mont Sinaï en Arabie, selon la géographie un peu antique. Et elle correspond à la Jérusalem présente, laquelle est bien esclave avec ses enfants. Donc une situation présente, même d'Israël, la Jérusalem présente, qui est encore un peu trop sous l'esclavage de la loi. Correspond à la Jérusalem présente, laquelle est bien esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est notre mère. Car il est écrit, et là Paul cite Isaïe au chapitre 54, le début du chapitre, Isaïe 54, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantais pas. » C'est clair que ça s'applique bien à Sarah. Hein. « Éclate et clame, toi qui ne connaissais pas les douleurs, car plus nombreux c'est les enfants de la délaissée, que ceux de la femme qui a un mari. » Donc, il va chercher un passage qui exalte une stérile qui, par grâce de Dieu, va devenir mère de nombreux enfants. comprend, c'est les enfants de la promesse, la multitude. Pour vous, frères, vous êtes, à la manière d'Isaac, enfants de la promesse. Mais de même qu'alors que celui qui était né selon la chair, Ismaël, persécutait celui qui était né selon l'esprit, Ismaël, à un moment donné, est entré en conflit. Lui, il est né, le fils d'Agar, avec le petit Isaac, qui était le fils de la promesse. Bon. De même qu'alors, celui qui était né selon la chair, Ismaël, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Paul fait allusion au fait qu'il y a des tenants de la loi qui persécutent les autres, qui veulent vivre la liberté chrétienne. Cependant, que dit l'Écriture ? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante ne saurait hériter avec le fils de la femme libre. Pas confondre les deux. Je vous disais, dans la suite du récit de Genèse, on voit comment quand même Agar et Ismaël sont respectés par Dieu, mais ce ne sont pas l'épouse ni le fils de la promesse. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants d'une servante, mais de la femme libre. Vous voyez qu'il a introduit ce thème de la liberté chrétienne, et qu'il va faire valoir encore. Je prends la page. Pardon, je prends la page 7. Donc il a parlé de la femme libre, et il va faire maintenant un petit développement. Qu'est-ce que vivre la liberté chrétienne? Et le ton se fait plus exhortatif. C'est pour la liberté que le Fils nous a libérés. Tenez donc ferme, et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Ne faites pas ce pas en arrière, de vous remettre sous le joug de l'esclavage. Oui, c'est moi, Paul, qui vous le dis. Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Je l'atteste de nouveau à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer toute la loi. Vous, vous êtes exclus du Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, en effet, c'est par l'Esprit que nous attendons de la foi la justice espérée. Paul reprend, répète, approfondit. Car en Christ Jésus, ni la circoncision n'a de valeur, ni la circoncision, mais seulement la foi agissant dans l'amour. Il pose un nouveau terme qu'il va développer. Donc il revient sur ce thème de la circoncision, qui dans le Christ, ce n'est plus cela le critère qui nous fait accéder au salut. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont été circoncis en raison de la loi mosaïque, ce signe d'appartenance au peuple juif, du peuple élu, n'a pas de sens, mais ils ne doivent pas en faire comme le porte-flambeau du salut qui vient dans le Christ désormais sur tous, circoncis ou incirconcis. Car en Christ, ni la circoncision n'a de valeur, ni l'incirconcision, mais seulement la foi agissant par l'amour. Vous couriez si bien, qui vous a empêché d'obéir à la vérité ? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, je suis persuadé dans le Seigneur, à votre égard, que vous n'aurez pas d'autres sentiments. Quant à celui qui vous trouble, il en portera la peine, quel qu'il soit. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Je suis persécuté, mais c'est pour un autre motif. C'est pour défendre la croix du Christ. Il est donc aboli le scandale de la croix. Qu'il se mutile donc tout à fait ce qui vous bouleverse. Bon, il ne va pas par quatre chemins. Pour vous, frères, il revient. Il y a le premier verset du chapitre, c'est pour la liberté que nous a libérés. Verset 13, il revient. Pour vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. La liberté n'est pas simplement un don premier que nous fait le Christ, mais c'est aussi l'horizon d'un appel. Nous sommes appelés à la liberté, à grandir dans la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté une occasion pour satisfaire la chair, au sens de votre être humain et pécheur, simplement, mais par l'amour, asservissez-vous les uns aux autres, et cet amour mutuel. Donc il ne s'agit pas de s'asservir à la loi, mais il s'agit de s'asservir à l'autre dans l'amour mutuel. Car la loi tout entière tient pleinement en une seule parole. En celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la réhabilitation radicale, évidemment, du cœur inaliénable de la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. tout le reste devrait en découler. Il ne faut pas faire passer l'accessoire avant l'essentiel. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas vous entre-détruire. Je le dis. Alors, il va réintroduire la mention de l'esprit en opposant à notre être simplement de chair. Je le dis. Conduisez-vous par l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. De sorte que ce que vous voulez, vous ne le faites pas. Vous connaissez cet autre passage où Paul se l'applique à lui-même en disant « Le bien que je voudrais faire, je vois que je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je voudrais éviter, je n'arrive pas à l'éviter. » De sorte que ce que vous voulez, vous ne le faites pas. Et ça, c'est la force d'instigation de l'être charnel qui résiste à l'esprit. Mais si vous êtes mené par l'esprit, au contraire, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont fornications. Non seulement les réalités corporelles, sexuelles, mais on va voir que la liste est beaucoup plus large. L'être charnel, c'est celui aussi qui manque à la charité élémentaire. Ce sont fornication, impureté, débauche. Là, on revient à toute la réalité corporelle. Mais ensuite, idolâtrie, sorcellerie. Ça touche déjà des déviances dans la foi. Haine, querelle, jalousie, fureur, dispute, dissension, scission, envie. Hein, ça touche tout ce qui blesse la charité. Aussi. Orgie, ripaille et choses semblables, tout dérèglement. Bon, une longue liste, il aligne 15 termes là. Et autre chose semblable, il dit malheureusement, le décompte et les termes capables de qualifier notre péché, le décompte est grand. Je vous préviens, comme je vous en ai déjà prévenu, ceux qui commettent telles choses n'hériteront pas, en termes de l'héritage, le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, au singulier, vous voyez, il y a d'un côté les œuvres de la chair, et puis le fruit de l'esprit, comme si il y avait un principe d'unification dans le don de l'esprit. Alors, qui se diffracte dans le fruit de l'esprit, et c'est bon d'entendre ces termes, quelques jours de la Pentecôte, le fruit de l'esprit est amour. Il revient en tête. Puisqu'il a dit, le commandement de la loi, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il le met en tête. Et ça, maintenant, il le saisit, non pas comme le fruit d'un commandement, mais comme le commandement de l'esprit. Comme le fruit de l'esprit. L'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, qu'on pourrait traduire en vocabulaire actuel par bienveillance, c'est le fameux terme de l'utopia dans le Nouveau Testament, paix aux hommes, objet de sa bienveillance, de sa bonté, fidélité, douceur, continence. Au passage, j'ai souligné que ce qui est rendu par bénignité pourrait se traduire aujourd'hui en termes de bienveillance, parce que pour nous chrétiens, ce terme aujourd'hui, bienveillance, se répand, utilisé parfois un peu trop largement, mais il a un enracinement aussi dans l'Évangile et dans les lettres de Paul. Et en l'utilisant, il est bon pour nous chrétiens de l'investir aussi de sa charge de foi. On arrivera à la bienveillance plénière qu'en recevant l'Esprit. Ça ne sera pas simplement une sorte de philanthropie humaine. Ça joue déjà pour tous les hommes de bonne volonté, mais la bienveillance entre les hommes, il suffit de regarder notre monde, notre église, la famille, nos communautés, la bienveillance véritable, il faut la demander aussi à l'esprit. Je ferme la parenthèse pour commenter ce mot de bénignité. Contre de telles choses, tous ces fruits d'esprit, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, eh bien, marchons aussi par l'esprit. Marcher, en langage biblique, c'est toujours, ça désigne la conduite éthique et spirituelle qui plaît à Dieu. Marcher comme le Seigneur l'entend. Se comporter, avancer comme le Seigneur l'entend. Marchons aussi selon l'esprit. Terminant, ne cherchons pas la vaine gloire. Souvenez ce terme dans l'hymne aux Philippiens. Ne cherchez pas la vaine gloire. Nous provoquant les uns les autres, nous enviant les uns les autres. Frères, lors même que quelqu'un serait pris en faute, vous, les spirituels, ceux qui vivent de l'esprit, redressez-le en esprit de douceur. Ils viennent de citer la douceur parmi les fruits d'esprit, mais mettez-le en œuvre, en esprit de douceur. Prends garde à toi, tu pourrais, toi aussi, être mis à l'épreuve. Donc là, il va donner des conseils pour l'attitude fraternelle comment le commandement de l'amour peut jouer concrètement dans la communauté. D'abord, s'il y a un fautif, il faut le reprendre, mais en esprit de douceur. Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Hein? Il y a la loi de Moïse, il y a la loi du Christ. On commence à nous accoutumer à utiliser le terme loi en un sens qui peut, selon les contextes, s'enrichir. Si quelqu'un se croit quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se leurre. Que chacun examine son œuvre, et alors il aura de quoi se vanter pour lui seul et non pour autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui qu'on instruit de la parole fasse participer à tous, c'est bien, à tous ses biens, celui qui l'instruit. Celui qui reçoit la parole peut avoir le souci d'aider à vivre celui qui l'instruit. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Quoi qu'un homme sème, il le moissonnera. Car celui qui sème dans sa chair moissonnera de la chair la corruption. Qui sème dans l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous décourageons pas de faire le bien. Au temps voulu, nous moissonnerons si nous ne défaillons pas. Donc une finale qui donne des pistes pour la vie comme une trêve fraternelle dans l'amour et qui encourage. Ainsi donc, tandis que nous en avons le temps, pratiquons le bien envers tous, mais surtout envers ceux qui partagent notre foi. Ça ne suit pas les autres, mais il faut commencer par son entourage le plus immédiat. On veut dire, pratiquons le bien d'abord en Église, sachons vivre cette charité. Puis la finale de la lettre. Voyez avec quel gros caractère je vous écris de ma main. Donc il est possible que Paul, comme je l'ai dit, dicte sa lettre à un secrétaire qui est à côté de lui, mais à la fin il prend la plume lui-même pour bien faire comprendre que c'est vraiment une lettre authentique de lui. Voyez avec quel gros caractère je vous écris de ma main. Tous ceux qui veulent ce bien se faire voir pour des motifs charnels sont ceux qui vous forcent à vous faire circoncire, à seule fin de n'être pas persécuté par la croix du Christ. Il va terminer sur ce regard sur la croix du Christ. Car les circoncis eux-mêmes ne gardent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se vanter de votre chair, en disant, voyez, j'ai réussi à faire un croyant et à le faire se circoncis. Mais non, c'est pas ça, dit Paul. Pour moi, puissais-je ne me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est à jamais crucifié pour moi et moi pour le monde. Car ni la circoncision n'est quelque chose, ni l'incirconcision, mais seulement la nouvelle création. Et tous ceux qui suivront cette règle, paix sur eux et miséricorde, souhait final, qui répond à la salutation initiale, la grâce et la paix, ici c'est paix sur eux et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est bien sûr le peuple d'Israël comme tel, mais formule est plus large. Il va le développer en Romains, faisant comprendre que nous avons part, nous qui ne sommes pas de l'Israël charnel, mais nous avons part à l'héritage d'Israël pour entrer dans l'Israël de Dieu. Désormais que personne ne me cause d'ennui, car je porte dans mon corps les marques de Jésus. Allusion très discrète, peut-être à des stigmates que Paul aurait portés. Je porte dans mon corps les marques de Jésus. C'est peut-être pas simplement les marques des coups de fouet déjà qu'il a reçus, etc. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frère. Amen. Voilà pour un parcours plus rapide sur certains passages de cette lettre. Si je reprends un peu la succession des thèmes qui sont introduits. Vous avez remarqué, je vous signalais, tiens, voilà un nouveau thème, et comment Paul le greffe sur ce qui précède et le fait s'enchaîner sur la suite. Je résumerai brièvement les choses comme ceci. Il s'agit de se tenir à la vérité première de l'Évangile. Tenir la vérité première de l'Évangile que Paul a reçu par révélation de Jésus-Christ. C'est pas n'importe quoi. Ça veut y tenir, comprenons, ne pas revenir en arrière et ne pas revenir en arrière comme Képhas a été tenté de le faire à un moment donné. S'en tenir à la vérité première de l'Évangile. Cet Évangile, cette bonne nouvelle, c'est que l'homme est justifié non pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus. Et cette foi, quel est son effet? C'est une foi qui donne de vivre, celle de la vie. Et le convoyeur de la vie, c'est l'esprit, et en vertu de laquelle on reçoit l'esprit. La foi fait vivre de la vie de l'esprit. Alors l'exemple de foi par excellence, c'est Abraham, que l'Écriture dit juste en raison de sa foi. Abraham le juste. C'est par sa foi qu'il a reçu les promesses. Les promesses de bénédiction. De nouveau, dans ce passage, une bénédiction qui fait vivre, une bénédiction de vie. Et une bénédiction que par la descendance d'Abraham ultime au singulier, le Christ, que par le Christ, descendance ultime d'Abraham, eh bien reçoivent toutes les nations. C'est par le Christ que ces promesses, ces bénédictions de vie arrivent à toutes les nations. C'est le passage que nous avons lu plus en détail. Alors cela resitue le rôle de la loi. Le rôle de la loi, c'était d'être un pédagogue jusqu'à ce que l'objet de la promesse nous advienne, jusqu'à la justice nous advienne, en étant non plus sous un pédagogue, mais en étant des héritiers. Et des héritiers qui le sont au titre de fils. Fils libre désormais, et qui doivent se garder de retourner au contraire de la liberté qui est l'esclavage. L'esclavage de leurs jadis pécheurs, leur passion, leur convoitise, mais aussi un rapport trop étroit à la loi, c'était ça, l'esclavage pécheur. Et cette liberté, l'apôtre va, après avoir développé la thématique d'Abraham, va la développer, on l'a vu, c'est la liberté des fils de la femme libre, Sarah, qui nous ouvre à la Jérusalem céleste, à la différence des fils de l'esclave qui en sont encore trop à la Jérusalem terrestre, parfois encore trop rivés sur la seule loi. Alors, si nous sommes ainsi introduits à la liberté, eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas nous asservir de nouveau à la circoncision. Mais au contraire, vivre de la foi qui nous a fait entrer dans cette liberté, et c'est une foi qui agit dans l'amour. Ici, toute la vertu théologale de la charité, l'agapé, vient compléter tout ce qui a été dit de l'insistance sur la foi, la pistis. Vivre de la foi agissant dans l'amour, et cela à l'opposé des tendances de la chair, mais au contraire, selon l'esprit et son fruit multiple, qui s'oppose aux œuvres de la chair. D'où alors les recommandations éthiques finales, comment vivre cet amour dans la communauté, en se supportant les uns les autres, en reprenant avec douceur les garés, etc. D'où les recommandations éthiques finales. Et la finale un peu surprenante de la lettre, où Paul mentionne dans son corps les marques de Jésus crucifié. Et on peut comprendre, en filigrane, c'est autre chose que les marques de la circoncision, ça. Il termine sur une question de marques dans son corps, parce que le problème initial, c'était, on se vante de marques dans le corps qui sont celles de la circoncision, mais les marques de Jésus-Christ crucifié, ça c'est autre chose. Et c'est ça qui nous sauve. Mais ce n'est pas les marques de la circoncision. Voilà une manière brève de résumer un peu l'enchaînement, je dirais, des thématiques vous sentez. On dit parfois, Galates, c'est comme un brouillon de Romains, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à suivre, mais il y a quand même une cohérence qui se dégage déjà dans le développement des thèmes. Et c'est sûr que Paul, hein, notamment à travers les citations, les associations qui nous déconcertent un peu, ne raisonne pas d'une manière tout à fait à l'occidental. Mais on voit quand même qu'il avance et que son vocabulaire est cohérent et que l'ensemble de la lettre se déploie autour d'un certain nombre de mots-clés et de thèmes qui jouent en harmonie et se complètent les uns les autres. Alors il nous reste 5 minutes, nous allons jeter un coup d'œil sur l'introduction de la lettre aux Romains. Je vais me contenter de prendre la feuille intermédiaire que je vous ai donnée, la page 54, qui fait un bref point sur notre parcours jusqu'ici, avant d'aborder alors la prochaine lettre aux Romains. Donc je vous invite à voir la page 54, sous les yeux, qui va nous servir de petit point d'étape, si je puis dire. Le parcours, cette feuille 54 avec vous. On se souvient qu'entre l'époque de Damas, séjour en Arabie, suite à son moment de conversion au Christ, de 33 à 46 environ, et celle des captivités, que ce soit commencé par les moments de captivité à Césarée, puis à Rome, il y a 3 grands voyages missionnaires de Paul. Ça, c'était le cadre. Un premier voyage limité en Asie mineure, selon certains, occasion déjà, juste après ce voyage, une rédaction de Galates qui serait, dans ce cas, le premier écrit de Paul, mais ce n'est qu'une hypothèse, mais je rappelle entre parenthèses. Le deuxième voyage missionnaire, c'est celle qui tourne autour des années 50-52, sans doute peu après l'Assemblée de Jérusalem, d'Acte 15, qui aurait eu lieu en 49-50, jusqu'à la fondation de Corinthe. C'est le voyage où on commence à passer en Europe, en Grèce. Et là, arrivé à Corinthe, Paul a eu le temps, l'opportunité d'écrire les 2 premières lettres aux Thessaloniciens, écrites de Corinthe sans doute, avec un accent, la perspective eschatologique de la venue du Seigneur, du jour du Seigneur. Et déjà un premier petit topo sur la résurrection. Et on se souvient que la deuxième Thessalonicien était de tonalité plus grave et vigilante que la première. Ça, c'était les premières lettres. Puis nous avons parcouru déjà l'essentiel, pas romain qui est évidemment déterminant, mais des grandes lettres, à savoir celles qui sont écrites lors de son troisième voyage missionnaire, vers 53-58. Et il l'a fait à cette occasion un long séjour à Éphèse. La première aux Corinthiens est écrite sans doute d'Éphèse, et j'avais souligné un accent unifiant, c'est la réalité du corps ecclésial à vivre dans la communion, sur le corps ecclésial, le corps du croyant à respecter, le corps eucharistique qui ne doit pas être objet de dissension, mais de communion ecclésiale, et enfin, avec le chapitre 15, le corps promis à la résurrection. Et nous avions développé un peu plus longuement 2 passages plus déployés dogmatiquement au chapitre 1 à 4, la sagesse divine par rapport à la folie de la croix, qui est en réalité sagesse et puissance de Dieu, et au chapitre, donc le mystère de la croix, et à l'autre extrémité de la lettre, le mystère de la résurrection du Christ et la nôtre. Puis nous avons parcouru la deuxième lettre aux Corinthiens, sans doute écrite de Macédoine, déjà, ou peut-être encore d'Éphèse, avec un accent, le ministère apostolique, que Paul va défendre, un ministère désintéressé, qui sert à la vérité, qui éprouve lui aussi la faiblesse de la croix, mais pour lequel Paul peut se vanter légitimement de s'y investir pleinement, et cela face à un offenseur, semble-t-il, et le faux apôtre dénoncé dans la dernière partie de la lettre, donc la défense du ministère apostolique. Et nous avions approfondi le passage « Ministre d'une nouvelle alliance, plus glorieuse encore que celle avec Moïse », c'était tout le passage sur le voile de Moïse, etc., dont on a vu déjà l'exemple de maniement scripturaire habile que Paul y offre. Puis nous avions vu la lettre aux Philippiens, peut-être déjà d'Éphèse, avec un accent majeur, la joie dans le Seigneur, qui est exprimée et demandée dans une commune disposition d'esprit, avec de manière récurrente des louanges doxologiques, et sans naïveté vis-à-vis de déviances possibles. Déjà, l'hymne aux Philippiens considérait l'abaissement du Christ jusqu'à la croix, et Paul, à la fin de la lettre, souhaite que ne soit pas vidé le mystère de la croix du Christ, qu'il va développer alors dans la lettre que nous venons de lire, la lettre aux Galates, un accent, la défense du seul véritable évangile, originellement proclamé et accueilli, mais maintenant menacé dans la communauté galate. Si on va de nouveau chercher son salut dans la circoncision et la loi mosaïque, alors même que l'esprit de liberté filiale reçu en héritage atteste ce salut comme venu par la croix du Christ et pour toutes les nations. Et nous avons détaillé le passage de Galates 2, 16 à 3, 16 à l'appui des citations scripturaires dont on a vu l'agence. Voilà pour un petit rappel de ce qu'on a fait jusqu'ici.